Journaliste et coordinateur de Radio Larzac pour vous accompagner en direct ce soir depuis le théâtre de la Maison du Peuple de Millau. On se retrouve ce soir pour le spectacle Éco-Ruraux par la compagnie Les Antichets. Malgré le pass sanitaire qui restreint les possibles, on est heureux d'être là avec vous après les multiples reports de l'an dernier. Éco-Ruraux, c'est l'histoire d'un village quelque part en France. Thomas, jeune éleveur, fait face soudain au décès de son père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface, mais les dettes du père menacent la survie de l'exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible, pourtant il faut trouver des solutions, et pour sauver l'exploitation, c'est toute la commune qui va s'engager. Cette pièce de théâtre à la limite du documentaire pose donc toutes les questions de la transmission qui touche le monde agricole d'aujourd'hui. Les choix à faire, bio, raisonné ou conventionnel, le mode de transmission et j'en passe. C'est pourquoi ce soir, Radio Larzac vous propose une table ronde avec des agriculteurs, des paysans, sur ce vaste sujet qu'est la transmission agricole. Pour en parler, nous sommes avec Rémi Agrinier de la ferme de Vérac à Aguessac et qui est également secrétaire général du syndicat des jeunes agriculteurs d'Aveyron. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Et avec nous également Laurent Reversa, paysan sur le Larzac et membre du conseil de gérance de la société civile des terres du Larzac qui est née de la lutte qui fête ses 50 ans cette année. Bonjour.
Bonsoir.
Du fait des contraintes sanitaires, nous sommes aussi en visio avec Loïc Almeras de la ferme de la Tindelle à la Cresse. Bonjour Loïc.
Bonsoir.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de la transmission, je vais vous proposer à tous les trois de parler un peu de votre ferme et de ce que vous produisez. Loïc, si tu veux commencer.
Oui, je vais. Voilà, Loïc Almeras, je suis agriculteur dans la vallée du Tarn, à cheval dans la vallée avec des arbres fruitiers, un petit peu de maraîchage, mais également sur le Causse Noire avec des brebis viande et quelques cochons pour la charcuterie. Voilà, je commercialise à peu près tout en direct et en plus j'ai une ferme auberge qui me permet de valoriser tous mes produits.
Et tu travailles sur la ferme donc depuis longtemps ?
Je me suis installé en 93, donc ça commence à faire un petit bout. Et j'ai ouvert l'auberge en 95.
On va continuer le tour de table, Rémi ou Laurent, comme vous voulez.
Donc Rémi Agrinier, donc moi je suis installé sur la commune d'Aguessac, entre Aguessac et Saint-Germain, plus précisément au lieu dit Vérac. Donc sur la ferme on est quatre, donc mes parents, un hors cadre et moi-même. Et donc on produit des brebis laitières, qu'on vend le lait pour Roquefort Société. Et ensuite on a un troupeau de brebis viande qu'on élève pour l'agneau en vente directe et des volailles, donc poules, poulets, pintades, dindes et chapeaux. Voilà, en vente directe aussi.
Laurent, si tu veux nous parler un peu de ce que tu produis sur ton exploitation.
C'est une ferme.
Sur ta ferme. bien distinguer les deux termes.
Donc, je suis Laurent Reversa, je suis éleveur sur le plateau du Larzac, à côté de l'Hospitalet. En GAEC, à deux. Nous avons un élevage de 300 brebis laitières en bio. Nous avons une apprentie avec nous et nous livrons notre lait aux bergers du Larzac, à la coopérative des bergers du Larzac, à la cavalerie.
Et tu travailles depuis longtemps sur cette ferme ?
Je suis arrivé sur cette ferme en 2013, puisque moi je suis paysan itinérant, c'est ma troisième installation.
Donc on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet de la question de la transmission, en vous demandant comment vous avez obtenu votre ferme, comment vous êtes arrivé sur cette ferme. Loïc ou Rémi, pour commencer ?
Voilà, moi, au départ, c'est mon père qui était exploitant sur des arbres fruitiers à la Cresse. Quand je me suis installé, on a pris un troupeau de brebis lait sur Veyro. Voilà, en même temps, on a développé la partie ferme-auberge. Voilà, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était quand même les arbres fruitiers. Mais lors de mon installation, dans les années 90, on a eu 3 années successives de gel. C'est pour ça que je me suis orienté vers les brebis pour quand même sécuriser un revenu. Voilà, après, dès que j'ai pu réimplanter des arbres, parce que j'avais un revenu grâce aux brebis et à l'auberge, j'ai réimplanté des arbres. Et c'est maintenant que je me suis tourné un petit peu plus vers cette production qui me convient mieux.
Et c'est une ferme familiale ou c'est une installation pure ?
C'est une ferme familiale, mais voilà, qu'on a vraiment développée. Mon père avait juste des agneaux d'engraissement et des cerisiers dans la vallée. Après, on a développé des premiers viandes sur le Cosse et la ferme auberge. Donc, ça a été un développement.
Donc Rémi, si tu veux poursuivre sur comment tu es arrivé sur ta ferme, sur ton exploitation.
Ben, moi, sur la ferme, j'y suis né, donc j'ai toujours vécu à la ferme. Nous, ça fait, je suis la cinquième génération qui travaille à la ferme. La particularité, c'est qu'on est fermier à 100% d'un seul propriétaire. Donc ça fait plusieurs générations qu'on loue la ferme à une tierce personne. Et moi, je me suis installé en 2014, après avoir fait des études agricoles, un BTS. Et après, je me suis installé sur la ferme en associé supplémentaire, du coup, et en créant l'atelier brebis viande et volaille, parce que je me suis installé en 2014. C'était avant la réforme de la PAC, avant la réforme des quotas laitiers. Et donc, du coup, on n'avait pas de vision pour augmenter la production laitière. Et donc, ça a été un choix personnel de créer de nouveaux ateliers pour diversifier l'exploitation.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En arrivant, tu n'as pas que repris l'exploitation, tu as aussi diversifié les activités, un peu comme Loïc.
Oui, c'était un choix de ma part parce que la brebis laitière, ce n'était pas l'activité qui me plaisait le plus. Et après avoir fait de multiples stages dans d'autres fermes toute la France, j'ai pu voir d'autres productions et la volaille et la brebis viande m'avaient plus convenu.
Et toi, Laurent, tu y es arrivé comment, d'une manière un peu différente de tes deux comparses ?
Alors, je suis trois fois hors cadre familial, c'est-à-dire qu'une première fois en 1996, je me suis installé hors cadre familial. J'étais voisin des parents de Rémi, d'ailleurs, avec une installation classique, grosse reprise de capital, nécessité d'achat d'une partie des terrains, etc. Pour des histoires de vie personnelle, j'ai quitté cette ferme en 2008. Je suis allé m'installer comme associé apporteur de capital dans une autre ferme où ça n'a pas fonctionné. Là, pour le coup, avec les propriétaires, c'est pour arriver à l'actualité que j'éclaire parce que donc j'ai été un petit peu exposé aux diverses manières d'arriver à l'agriculture. En dehors de la transmission familiale, celle-là, je ne l'ai pas eue. Et donc, en 2013, je me suis installé sur le plateau du Larzac en reprenant une activité agricole dans une ferme SCTL, donc gérée par un collectif. Le collectif a accepté que deux activités de mon prédécesseur soient scindées, que lui continue son activité de production et de vente d'huile essentielle. Et moi, j'ai repris l'atelier brebis laitière. Et nous avons reconstitué, avec l'accord du collectif et avec le voisin, la ferme telle qu'elle était historiquement, pour aboutir à une structure très stable. La stabilité des structures étant une des valeurs de la SCTL.
Si tu veux, du coup, nous en dire un petit peu plus sur cette SCTL, cette Société Civile des Terres du Larzac, sur son fonctionnement en termes de transmission.
Alors, voilà, je vais faire très vite sur l'histoire. La SCTL, c'est la société civile qui gère les terres qui ont été rendues au territoire par l'État après la lutte, rendues non pas en propriété, mais en propriété déléguée, on va dire, puisque cette société civile, c'est une société civile type société civile immobilière, a un bail emphytéotique avec l'État qui a été prorogé en 2013, donc pour 99 ans depuis 1984. Et le collectif donne à bail de carrière les 24 plus 4 GFA, les 28 fermes dont le siège est sur ces terres-là. Donc ces terres, c'est 6000 hectares plus 2000 pour le GFA, pour faire des comptes ronds, donc en gros 8000 hectares. 28 fermes essentiellement SCTL ou GFA, et plus, donc ça représente ça déjà 55 paysans à peu près, plus une vingtaine de locataires de petites parties, de gens qui sont paysans avec une part minoritaire qui est la SCTL ou GFA. Donc nous avons un bail de carrière, nous arrivons sur la ferme, nous payons une valeur d'usage, c'est-à-dire que tout est sorti de notions de spéculation ou même de valeur de marché.
Ça sort des questions donc de propriété des terres en fait.
Et de propriété. Alors les terres, elles sont en location, oui, pour un bail de carrière, c'est-à-dire pour la durée de ma carrière. Ça, c'est clair. Et après, pour les bâtiments, il y a une maison obligatoirement au minimum par siège de ferme. Et pour que cette maison reste disponible au moment de la transmission, cette maison, on en paye une valeur d'usage en rentrant. Et le jour où nous avons terminé notre bail, nous rendons la maison et on nous reverse une valeur d'usage en fonction de l'évolution des plus et des moins qu'il y a eu, comme sur les bâtiments agricoles d'ailleurs, des améliorations ou détériorations que nous avons fait. Comme nous avons des fermages qui sont très bas, contrairement à un fermier classique, c'est nous qui devons faire les améliorations sur les bâtiments et sur nos maisons. Et donc c'est évalué au moment de notre sortie en termes de valeur d'usage. L'exemple pour situer ce qu'est une valeur d'usage, c'est que lorsque je rendrai ma maison, si j'ai mis une robinetterie en or, si la robinetterie fonctionne, nous écrirons sur l'état des lieux « robinetterie en état de fonctionnement ». Nous n'écrirons pas « robinetterie en or ». Voilà, ce qui n'est pas le cas.
Et en termes de fonctionnement donc de la SCTL, ça pose des questions du fait que les personnes qui étaient là au début de la lutte du Larzac, qui fêtent donc cette année ses 50 ans, arrivent à peu près à l'âge de la retraite maintenant.
Alors on a un gros renouvellement et on est très attaché à une valeur qui est la stabilité des structures. C'est-à-dire qu'on se dit, on a la chance d'être un collectif et le collectif s'inscrit et inscrit cette gestion de foncier dans le temps long. Donc on ne va pas répondre à des besoins conjoncturels d'agrandissement. De toute façon, notre territoire, il n'est pas extensible. Nos fermes, elles sont là. Et le but, c'est de conserver le nombre de sièges en l'état et de maintenir le nombre d'actifs. Pour l'instant, on en est là. Ça tient, voire ça a augmenté jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on maintient. Et donc de transmettre, d'aider à la transmission. Alors, quand ce sont des structures sociétaires, là, nous ne rentrons pas dans les... Tant que la société existe, nous ne rentrons pas dans les débats de changement d'associés. Par contre, lorsqu'une ferme, un fermier s'arrête et que sa ferme est mise à disposition, à ce moment-là, il y aura donc établissement d'une valeur d'usage qui sera payée au sortant et que l'entrant payera. Et nous faisons un appel à candidature. Nous recevons l'ensemble des candidats et selon leur projet... l'inscription dans le territoire, l'inscription dans le collectif. Nous choisissons, il y a une gestion qui est faite, qui est assurée par 11 gérants qui sont élus pour 6 ans. Et on espère toujours qu'il y ait du turnover. Hein. Je suis un des gérants, moi je suis à mon premier mandat et oui, j'espère qu'il y aura du monde pour me remplacer à la fin de ce premier mandat. Voilà. Et c'est le collectif qui choisit qui va remplacer qui en fonction des besoins du territoire.
Donc maintenant, Loïc, Rémi, ce fonctionnement alternatif qu'est celui de la SCTL, c'est quelque chose qui peut vous parler ? Sachant que vous êtes sur un fonctionnement, on va dire, de transmission, entre guillemets, plus classique ?
Plus classique, je sais pas, parce que aujourd'hui, moi, j'ai pas d'enfants qui sont en mesure de reprendre. Mes parents arrivent à l'âge de la retraite, donc j'ai quand même 2 personnes à remplacer. On a trouvé un rythme de travail à 4 personnes. Et donc, je dirais que je serais...
Ça a été classique pendant longtemps,
oui, mais ça a été classique jusqu'à que j'arrive. Mais aujourd'hui, ben voilà, il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, est-ce qu'on repasse à 3 associés ? Est-ce qu'on repasse à 2 ? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Trouver les gens qui ont envie de travailler sur nos fermes. Ça, c'est l'éternel combat, mais je pense que ce n'est pas que dans les fermes, malheureusement, aujourd'hui. Et après, non, je pense que... Moi, aujourd'hui, ce que je cherche à faire sur la ferme, c'est créer de la valeur ajoutée pour simplifier la charge de travail. Et donc, voilà, mes grands-parents, eux, ils étaient tous les deux avec des salariés, des métayers. Enfin, il y avait tout un tas de... Ils étaient peut-être 7 ou 8 à travailler sur la ferme. Mes parents ont été 2. Aujourd'hui, on est 4. Si demain, on est 10, donc il faudra diversifier encore plus l'exploitation. Mais... Je pense que la surface de l'exploitation depuis 1940 qu'on y est n'a pas bougé. Donc je pense que...
Vous n'êtes pas étendu au fil de l'histoire de la ferme.
On ne s'est pas étendu parce qu'on avait assez de terre pour nourrir tous nos troupeaux. Et moi, je pense que l'objectif, déjà, dans un premier temps, ce serait de remplacer mes parents. Et après, à terme, de pouvoir développer l'activité, de nouvelles productions, pourquoi pas. Et derrière, pouvoir prendre plus de week-ends, plus de vacances et avoir presque, je dirais, un statut de salarié, entre guillemets, mais pouvoir avoir des horaires normaux, quoi, comme n'importe qui travaille dans un secteur privé ou public, quoi.
Et donc pour ça, il va vous falloir embaucher ?
Embaucher, trouver des personnes et surtout, je pense, diversifier et augmenter la valeur ajoutée. Donc peut-être ce sera arrêter de livrer notre lait à un industriel, le transformer. Et tout ça, c'est des étapes, c'est des investissements, c'est des projets, c'est des personnes. Je pense que sur le long terme, c'est ce qui pourra pérenniser l'avenir de nos fermes. Quoi.
Et toi, Loïc ?
Le modèle qui est sur le Larzac est quelque chose de très intéressant. Par contre, ce n'est pas pour notre région, le foncier n'est pas maîtrisé, donc c'est difficile de gérer ça de la même manière. Pour mon cas personnel, mon fils vient de s'installer avec moi, il a 21 ans. Il a des projets de transformation, d'un atelier de transformation. J'ai un deuxième fils qui est à l'école d'agriculture, qui veut s'occuper de brebis, qui viendra sûrement avec nous plus tard. Donc voilà, pour nous, pour la suite, personnellement, l'exploitation a l'air sur une bonne pente. On va continuer.
Et maintenant, je vais m'adresser à tous les trois. Quand vous avez repris votre ferme respective, vous avez dû faire certains choix en particulier, en termes d'évolution par rapport à ce qu'était la ferme donc, au début.
Ouais. Moi, mon choix, le premier, c'était obligatoire. Comme je vous ai dit, on ne pouvait pas faire de cerises, c'était difficilement viable, donc on a fait des brebis. Voilà. On sait un petit peu, ça a été des contraintes un petit peu. Les choix, moi, je les ai faits il n'y a pas longtemps. En fait, des choix, ce n'est pas vraiment des choix. C'est une façon de travailler. Voilà, je viens de passer en bio. Mais pour les brebis, c'est comme ça que je les gère depuis longtemps. Pour les arbres fruitiers, c'est notre problématique. Dans la vallée du Tarn, on a une problématique. On est quasiment en périurbain. Donc, difficile d'exploiter des arbres avec des voisins qui habitent. Donc voilà, je passe en bio sur les arbres, c'est compliqué, ça va être très compliqué, mais on s'aperçoit qu'à un moment, il faut que quelqu'un tire devant et essaye de trouver des solutions pour pas qu'il y ait de conflits de voisinage. Moi, dans notre région, il y a plus de conflits de voisinage plutôt que de suite. Dans mon entourage, il y a au moins 5 ou 6 personnes jeunes qui s'installent là dans l'année et qui viennent d'arriver, donc c'est pas trop le problème. Le problème est plus... au niveau de la vallée, du voisinage.
Et toi, Rémi, tu as eu certains choix à faire quand tu as repris la ferme ?
Quand je me suis installé, j'ai choisi de nouvelles productions parce que, pour tirer un revenu. Mes parents, quand ils étaient deux, il y aurait eu la place pour une demi-personne, les revenus pour une demi-personne en 2014. Et puis en 2015, on a eu les changements de la politique agricole commune qui nous ont pas mal aidés. On a pu augmenter le prix de vente du lait parce qu'on était bloqué depuis des années. Ça nous a donné un peu plus de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on est 4, donc je pense qu'on a bien développé l'activité économique. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc, c'est des choix de... C'était pas évident pour mes parents de rajouter deux nouvelles productions. Bon, les volailles, on en faisait un peu pour notre consommation personnelle, mais... C'était des productions, du travail en plus, c'était beaucoup...
Ce sont des choix qui sont venus via la contrainte, en fait, économique.
Eh bien, ça a été voulu économiquement pour me dégager un salaire. Sinon, oui. Si j'avais rajouté 100 brebis laitières, on aurait eu la place de les nourrir. Mais économiquement, on aurait vendu le lait à 50 euros les 1000 litres. Il n'y avait aucun intérêt de faire ça, quoi. Alors, du coup, on a diversifié. C'était pas évident pour mes parents, le choix des productions, diversifier. Mais mon père me le dit encore aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus simple de mettre 100 brebis de plus à la traite que d'aller faire de la vente directe avec des clients. Enfin, après, 7 ans plus tard, le revenu est là, ça marche, les clients sont contents. Donc, on peut dire que c'était pas un mauvais choix.
C'est un choix qui paye aujourd'hui.
C'est ça. Sur le long terme, ça rapporte, quoi.
Et toi, Laurent, tu as eu des choix à faire en particulier quand tu es arrivé, notamment sur ta dernière ferme en SCTL?
Alors, moi, je vais d'abord faire une remarque désobligeante. Je crois qu'il y a une erreur de casting parce que on est tous les trois à avoir fait des choix de valeur. C'est-à-dire que on n'est pas sur ce qui met en péril aujourd'hui la transmission et la reprise, que sont l'agrandissement, que ce soit Loïc, que ce soit Rémi. Alors Loïc, on ne se connaît pas directement, mais on sait qui on est. Voilà, donc on connaît nos parcours. Rémi, je te connais, je connais la ferme. Et puis, on a la chance en Sud-Aveyron, effectivement, d'avoir cette quête de résilience et de durabilité qui a démarré peut-être un petit peu avant d'autres régions, avec la diversification, avec la quête de valeur à divers niveaux. Alors nous, on ne l'a pas fait en choisissant de transformer, mais effectivement en étant en bio, en étant au berger du Larzac, on a fait un travail un petit peu à l'envers après sur l'économie des charges, un système extrêmement résilient, avec peu d'emprunts, avec beaucoup d'autonomie en alimentation, mais aussi beaucoup d'autonomie dans la décision, parce qu'une autonomie financière et finalement, pour le coup, en ayant un seul atelier, n'étant pas en surtravail, on a aussi le temps de réfléchir et de s'adapter, de se poser des questions. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le support, on a toujours le choix et on se retrouve quand même tous les trois sur des schémas qui sont pas les mêmes. Les leviers ne sont pas les mêmes, mais ils sont quand même très comparables. En tout cas, les quêtes sont les mêmes et on n'est pas dans la course à l'échalote, ce qui fait qu'il nous envoie dans un mur, qui envoie une part de la paysannerie dans le mur.
Et donc toi, tu as fait aussi des choix de valeur sur ta ferme.
Ben, les choix de valeur, c'est effectivement vendre mon lait cher, que nous ayons des brebis qui fassent leurs agneaux à la période où ça convient le mieux à la ferme, diminuer le travail du sol, être de façon... Alors, c'est une conviction écologique, mais alors, depuis... 20 ans à peu près, chaque fois qu'on a fait un choix qui allait vers l'agroécologie, ça s'est converti en sonnant et trébuchant. C'est-à-dire que l'écologie et l'économie se rejoignent clairement dans des régions comme la nôtre. Donc ce choix-là, il s'est construit petit à petit et avec un immense plaisir dans le travail. Chaque fois qu'on en fait un peu moins dans l'utilisation de carburant, que les produits, il y a bien longtemps qu'ils sont tous abandonnés. Enfin, c'est du bonheur. Et puis du coup, on est en phase avec ce qui nous est renvoyé du point de vue attente sociétale. Donc voilà, c'est pas des choix sous la contrainte. Par contre, je vais juste avoir un mot sur ce que m'a apporté la SCTL. C'est justement que la contrainte peut être un avantage. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la lutte et qui se sont installés derrière, qui se sont donc installés sur ces terrains qui ont été rendus à l'agriculture, ils ont posé à leur valise à un endroit où soit ils ont tracé un cercle autour de leur valise, soit le cercle était déjà tracé, et puis se sont dit, maintenant, on est là, on a posé nos valises, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est en ça que je dis que mes camarades, là, les choix sont les mêmes, c'est avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et ça, c'est drôlement important, et c'est quelque chose, nous, à la SCTL, qu'on va essayer de pérenniser, c'est-à-dire, c'est pas l'agrandissement qui va permettre de continuer à exister, c'est bien... comment on fait pour, avec les fermes qu'on a telles qu'elles sont, continuer à installer des gens et renouveler les générations. Voilà. Et ça, moi, c'est l'héritage que je reçois de la SCTL.
Et on va aborder plus en détail maintenant un choix que vous avez très probablement dû faire sur vos exploitations, sur vos fermes, entre le conventionnel, le bio. C'est un choix qui s'est fait naturellement, chacun, sur vos fermes? Rémi ou Loïc ou Laurent?
Ah oui, mais totalement. Nous, on est en conventionnel depuis des années. La question du bio, elle s'est posée. Et j'ai vu les résultats que ça pouvait donner sur le long terme, sur des exploitations similaires à la mienne, c'est-à-dire exposées plein nord. Donc, la nature démarre plus tardivement. Et derrière, des sécheresses qui sont de plus en plus tôt. Et moi, sur mon exploitation, sans azote chimique, eh bien, je démarre, je suis à vol d'oiseau, je suis à 2 km de Millau. Par contre, les terres qui donnent au-dessus de Millau, elles démarrent 15 jours, 3 semaines avant moi. Si je ne mets pas l'azote, je démarre un mois après tout le monde. Et derrière, si je prends une sécheresse classique qui arrive début juin, eh bien, au mois de fin juin, j'ai plus d'herbe. Donc mes brebis, comment je fais pour leur donner à manger si j'ai plus d'herbe au mois de juin, quoi. Sachant que nous, on trait jusqu'au mois mi-octobre. Et donc, le choix du bio, il s'est posé, mais l'évidence, c'est on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'azote par le fumier pour pouvoir passer en bio et rester avec les mêmes rendements. Parce qu'après, c'est un cercle vicieux, quoi. Tu diminues ton troupeau parce que du coup, tu n'as pas assez de nourriture pour le nourrir. Mais en diminuant ton troupeau, tu diminues aussi ton fumier. Donc, tu n'as pas assez de fumier pour nourrir tes terres. Et c'est un cercle vicieux. Et au bout d'un moment, ça se stabilise. Mais les pertes que sur mon exploitation, après, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais sur mon exploitation qui est plein nord, ça ne pourra pas fonctionner. Aujourd'hui, techniquement, en bio, on n'a pas la solution. Ou alors, il faudrait que j'ai un atelier hors sol. Et un atelier hors sol bio, malheureusement, ça n'existe pas. Non, mais il faut être réaliste à un moment donné, quoi. Il y a des fermes sur qui ça marche très bien. Je pense que quand vous avez 400 hectares de parcours sur le Larzac, passer en bio, vous amenez rarement de l'engrais sur ces parcours-là. Donc, il y a une logique. Quand, comme nous, on a 130 hectares labourables, il faut avoir la matière pour nourrir le troupeau, quoi.
Mais c'est quand même une question que tu t'es posée à un moment.
On se l'est posée, mais parce que tout le monde y allait. Donc, est-ce qu'on suit la marche vers le bio ? Oui, non. Et quand on met concrètement les chiffres dans un tableau, ça marche pas, quoi. Ça marche chez certains, mais pas chez tous.
Et toi, Loïc, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ?
Voilà, la question s'est posée, mais ça a été vraiment naturel. Après, je ne suis pas sur une exploitation de brebis lait, je suis un brebis viande sur le COS avec beaucoup de parcours. Donc, c'est quelque chose qui est quand même plus facilement réalisable. Bon, bien sûr, en baissant le nombre du GB hectare, mais voilà, c'est quelque chose pour lequel on arrive facilement. La difficulté, c'est d'arriver à convertir des arbres fruitiers en bio. Voilà, a priori, ma première audition en début d'année, le contrôleur me dit c'est la première fois que je vois ça en Aveyron. Et la problématique, c'est d'être suivi un petit peu, d'avoir des conseils pour arriver à faire les bons choix. Comment remplacer certains produits mais bon, c'est évident. Moi, il y a deux mois, j'ai un voisin qui est décédé d'une maladie due au traitement. Au moment, c'est plus possible. Il faut qu'on sache, on ne peut pas empoisonner les autres. Voilà. Sur l'arbo, pour moi, c'était évident.
Après, et ta propre santé, du coup, a fait partie de ton choix ?
Comment ?
Ta santé, à titre personnel, a fait partie de ton choix de te convertir en bio ?
Ça, et même, voilà, moi je vends sur le marché. Comment vendre d'un produit sur le marché où c'est que tu as du mal à presque à le manger sur ton exploitation? Ça peut arriver jusque-là. Faut pas mentir des fois. Pour moi, c'est pas possible. Et moi, mon problème, ce qui m'embête un petit peu en ce moment, c'est les discussions avec mon fils le plus jeune qui est à l'école d'agriculture. Et qui me dit mais c'est nul le bio et tout, parce que bon, c'est des discussions qu'il a avec d'autres collègues, et qui me dit mais moi si je m'installe ce sera pas un bio, et on achète des gros tracteurs, et voilà, c'est ce qui me gêne un petit peu, de ce qui se passe à l'école et des discussions qu'on a, alors que les jeunes devraient être au contraire dans un sens inverse.
Mais c'est que ça ne fait pas partie de la formation, la question du bio?
Si, mais après, c'est surtout la discussion avec ses collègues. Oui. Mais c'est une aparté. Hein. Et c'est ce qui me gêne le plus.
Et toi, Laurent, par rapport au bio conventionnel ?
Alors moi, ça a été une construction longue aussi. Hein. Je me suis installé avec, ce que j'avais appris à l'école. Donc, il y a belle lurette maintenant, il y a plus de 30 ans. Et donc, c'était où tout était calculé avec des apports d'engrais chimiques, de produits pesticides de toutes sortes. Et à l'époque, même le fumier, c'était le surplus, on ne le comptait pas. On le mettait par-dessus, comme ça, on était sûr de pas se tromper et de ne pas manquer. Je me suis installé avec ça. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, hein, chaque fois que j'ai fait un choix écologique, parce que la sensibilisation, elle vient du fait des rencontres, du fait du voisinage, d'une interrogation personnelle, des attentes sociétales. Ben, je vous l'ai dit, il y a eu le plaisir qui est arrivé et l'économie qui a suivi. Mais c'est un long chemin où on ne doit pas se dire du jour au lendemain, sous prétexte qu'il y a des aides, qu'il y a une valorisation en bio, on va transformer ce qu'on faisait en conventionnel et on va le faire en bio en cherchant les produits de substitution équivalents en bio, etc. Ça, c'est voué à l'échec parce que les marchands du temple sont là et que toute la plus-value liée à la production en agriculture biologique sera bouffée par les baisses de rendement et de productivité, ce qui est une réalité, et par l'achat de produits de substitution qui sont souvent beaucoup moins efficaces et beaucoup plus chers. Donc du coup, je n'essaye plus de nourrir mes sols, mais de faire vivre mes sols de façon à ce qu'eux nourrissent les plantes. C'est un changement de paradigme complet où, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il faut le faire d'une façon cohérente. Je suis pas donneur de leçons par rapport à ceux qui sont en agriculture conventionnelle. Il faut que chacun balaye devant sa porte. Et encore une fois, il y a un projet politique. On n'est pas là pour débattre de ça. Par contre, c'est un changement de paradigme profond dans lequel il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis en bio à la banque aussi. En essayant d'être le moins dépendant possible de ce qui se passe, de mes remboursements en fin d'année. Parce que lorsque on est dépendant financièrement, on a besoin d'assurance. On est dans un système d'assurance et de surassurance. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour d'autres domaines. Mais les assurances, elles se posent partout. Ça va être l'assurance récolte, celle qu'on contracte, mais ça va être aussi l'assurance à travers des produits de prévention et de traitement sur les cultures pour garantir la récolte, parce que si j'ai pas ma récolte, je nourris pas mes animaux. Si je nourris pas mes animaux, je ne produis pas le lait. Si je ne produis pas le lait, je ne rembourse pas mes emprunts. Donc la question de la résilience, en fait, c'est quelque chose qui se prépare et qui se prépare, c'est de longue haleine. J'ai fait un chemin, je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Rémi l'a dit, il était au nord, moi j'étais au sud. Voilà, on était voisins.
Donc, il bio, faut avoir un peu de chance quelque part.
Non, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un déclic à un moment et puis après il y a un chemin. Voilà, et ce chemin, c'est pour moi, ça a été un chemin de joie. Voilà.
Et c'est un chemin qui a pris longtemps dans la démarche.
Disons que je me suis installé en 96. En 98 ou 99, il y avait quelques prémices de désintérêt, par exemple, pour les insecticides sur les luzernes, en me disant les insecticides, c'est bête, ils tuent les chenilles sur les luzernes, mais ils tuent aussi le prédateur de la chenille, qui est la coccinelle. Comment on va s'en sortir de cette histoire-là? Voilà, et je vais vous passer tout, parce que les jalons, je les ai bien à la tête, parce que j'ai été marqué par ces jalons-là. Mais je ne vais pas les dérouler maintenant, mais en tout cas, c'est en 2000, ma première certification bio, c'est en 2008. Voilà.
Je
suis d'accord avec Laurent. Hein. Après, ce n'est pas parce qu'on est en conventionnel qu'on est hyper intensif et qu'on détruit tout non plus. Nous, particulièrement.
Tous les conventionnels ne se valent pas.
Non, voilà. Et je pense qu'il aujourd'hui, à l'heure actuelle, les conventionnels qui traitent à foison et qui mettent de l'engrais en foison n'existent plus. Ou c'est très marginal.
Dans notre région.
Dans notre région.
De polyculture, oui. Élevage. Où l'élevage permet d'avoir des rotations cohérentes sur les fermes et d'éviter un grand nombre de traitements et d'éviter une grande part des engrais également. Et ça, je te rejoins. Dans notre région, c'est vrai.
Oui. Mais même au niveau technique aujourd'hui, l'agriculture a quand même évolué. Tu ne prends pas la décision de faire un traitement parce que ça fait 20 ans que tu fais le traitement à cette période-là et tu traites parce qu'il faut traiter, tu as toujours traité. Tu commences à aller voir ta culture, voir si elle est malade et en fonction, tu décides de traiter ou pas traiter. Nous, particulièrement sur notre exploitation, on a fait le choix depuis plus de 10-15 ans maintenant de ne plus faire d'insecticides. Alors que la majorité de nos voisins, on est un peu atypique, mais la majorité de nos voisins, quand arrive le printemps, que les chenilles arrivent sur la luzerne, ils traitent systématiquement l'insecticide. Et nous, on a fait le choix de ne pas traiter. Alors oui, peut-être on a une qualité de foin qui est peut-être, il faudrait analyser, qui est peut-être un peu moins bonne, il y a peut-être des feuilles un peu plus petites. Toujours étant, on arrive à faire 330 litres de lait par brebis, donc on est plus haut que la moyenne du département, et ça ne nous empêche pas de vivre. Après, c'est des choix personnels sur notre exploitation. Là, ça fait 2 ans qu'on essaye un nouvel engrais qui n'est pas de l'azote. C'est un engrais qui... On continue quand même à mettre de l'azote sur les céréales, hein. Je ne veux pas mentir non plus. Mais on teste un engrais à la place de l'engrais de fond, on teste un activateur de sol, qu'ils appellent. Donc c'est des bactéries, des champignons qu'on incorpore dans le sol et qui, sur le long terme, doivent permettre à notre sol de mieux fonctionner.
Donc voilà. Rémi, tu fais pas du bio, mais tu as quand même une certaine éthique, voilà, à chercher, faire une agriculture raisonnée malgré tout.
Et bien, à trouver des solutions, parce que ben, forcément, au prix de l'engrais, notamment cette année, au prix des produits phytosanitaires, ben, on se pose des questions. Quelle alternative on peut trouver, quoi.
Loïc, si tu souhaites réagir à ce débat entre bio et non bio.
Non, j'ai rien à dire de plus là pour le moment.
Donc tous les trois, vous n'êtes pas encore à l'âge de la retraite. Rémi, tu as commencé à nous répondre tout à l'heure. Vous avez commencé malgré tout à réfléchir à une possible transmission après votre carrière. S'il y en a un qui souhaite réagir.
Moi, c'est en route. Maël est déjà avec moi. On est associés. Yanis arrive. Donc voilà. A priori, ça va suivre.
Ça va rester dans la famille. Donc.
Ça va rester à la force. Voilà, ça va continuer normalement. Voilà, si... S'ils arrivent à travailler ensemble, ils sont volontaires, ils ont envie de rester sur le pays, ils aiment bien le coin, ils aiment bien travailler un avec les animaux, l'autre plus sur la transformation, parce qu'ils vont bien se compléter. Il y a juste les arbres où je serai obligé d'y rester longtemps parce que c'est pas leur métier, ils aiment pas ça. Mais bon, ça fera mon activité pour la retraite.
Et toi Rémi, du coup, si tu souhaites en dire un peu plus que tout à l'heure, hein.
Ben donc nous, j'ai 2 personnes à remplacer, mes parents. Donc mon père peut prétendre à la retraite au mois d'octobre l'année prochaine. Donc ma mère, il lui reste encore 4 ou 5 ans. Et donc on avait un salarié là depuis début janvier qui s'installe au 1er janvier 2022, donc qui rentre associé dans le GAEC. Et ben, je pense que dès l'année prochaine, une fois que Guy sera installé, on va essayer de mettre en place, je pense, un CEFI. Essayer de trouver une personne dans le CEFI qui pourra, ben, si ça fonctionne et qu'on trouve la personne avec qui on s'entend, parce que la transmission, c'est ça aussi, c'est pas tout de trouver des personnes, il faut s'entendre, avoir la même vision de l'agriculture, du travail. Enfin, moi, personnellement, aujourd'hui, je vois pas mon travail comme une contrainte. Parce qu'on peut se dégager des week-ends, la majorité de l'année on travaille un week-end sur 2, là cette période là on travaille un week-end sur 3, on part en vacances, et ça c'est les choses auxquelles je suis attaché.
Mais c'est parce que vous avez fait des choix aussi pour pouvoir vous octroyer des week-ends.
Après voilà, on a fait le choix d'être plusieurs, oui. Donc il faut s'entendre, et je pense, je dirais même que c'est peut-être plus facile de s'entendre avec une personne hors cadre qu'avec ses propres parents, parce que ben, forcément, quand on est dans la famille, tu as toujours ce lien père-fils, oncle, neveu ou autre. Tu dis rien parce que c'est tonton, tu dis rien parce que c'est papa, maman, et tu prends sur toi. Je pense que quand tu es avec des hors cadres, ben, tu prends pas sur toi. Tu dis les choses plus facilement et je pense que c'est plus fluide. Après, l'avenir nous le dira, parce que ben voilà, Guy est hors cadre. Bon, on la connaît depuis un moment parce qu'il était salarié à la CUMA, donc on sait comment ils fonctionnent et comment on a déjà travaillé ensemble. Et après, on verra sur le long terme si ça fonctionne ou pas, quoi. Là, on est au début. Une année dans l'agriculture, c'est rien, quoi. Malheureusement, un cycle de la ferme, ça prend un an. Donc, on n'a fait qu'un cycle. Et dans une carrière, il y en a beaucoup.
Et toi, Laurent, t'as pensé un peu à l'après ?
Alors, moi, c'est Tonton. Mon associé, c'est mon neveu. Voilà, il a 30 ans, il est installé depuis 5 ans, et je trouve que, voilà, ça y est, maintenant, c'est lui le maître des lieux, mais moi, je ne suis pas encore prêt à lâcher. Non, on n'est pas dans la transmission, on est dans les projets, dans comment cette ferme s'étoffe, est-ce qu'elle peut faire vivre d'autres personnes, etc. Qu'est-ce que, voilà, dans les projets, dans les rêves encore, donc même si, effectivement, la perspective, elle est à 12 ans, j'ai l'impression, moi, mon rêve, ça serait... justement de ne pas avoir à transmettre, c'est-à-dire que la ferme, elle vit comme si elle avait une vie propre en tant que structure, en tant que ferme, et puis moi je me retire et puis d'autres rentrent et puis voilà, et ça continue, voilà, puisque on est complètement déconnecté du patrimoine, on est ce patrimoine, c'est le patrimoine collectif, on sert le collectif, mais après nous on se retire et d'autres le font, et finalement voilà, transmission avec beaucoup de modestie.
Donc pour la plupart, vous avez plus ou moins un début de solution pour la transmission de vos fermes, mais de manière plus globale, la difficulté à transmettre les exploitations agricoles, les fermes, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est sans doute, en effet, au plan global, parce que autour de cette table, je pense que, voilà, la recherche de valeur, encore une fois, fait que, de valeur, et puis aussi, je pense, des choix forts de production, et puis d'aller vers le consommateur aussi, ça inscrit dans la durée, et dans la durabilité. Toutefois, là, le schéma classique, celui-là, il est inquiétant, celui qui fait que, j'ai parlé de course à l'échalote tout à l'heure, qui fait que les gens cherchent à produire plus pour gagner plus, pour produire plus, ils cherchent à s'agrandir, souvent avec l'achat de foncier. L'achat de foncier est quelque chose... Le foncier, il porte trois valeurs. Il porte une valeur de marché, une valeur... quatre valeurs même. Une valeur de marché, une valeur de agricole, une valeur patrimoniale, et on y rajoute une valeur spéculative. Donc, forcément, c'est étant un refuge en plus. Ce foncier associé à un capital d'exploitation qui est lié à du foncier qui s'agrandit, devient de plus en plus gros parce que les bâtiments, parce que le matériel, etc. Tout ça, ça fait des valeurs de reprise qui sont extrêmement conséquentes. Et l'inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que l'agriculture ne puisse plus payer toutes ces valeurs rajoutées, empilées les unes sur les autres. Et du coup, que ce soit de l'extérieur à l'agricole, qui viennent investir dans l'agricole. C'est déjà vrai dans le vin, c'est déjà vrai dans en fait des productions de justement à haute valeur ajoutée ou à haute image. Pourquoi le rayon de Roquefort, qui a encore une dynamique agricole, ne serait pas le prochain lieu de ces catastrophes ? Parce que ce sont des catastrophes. C'est-à-dire que le territoire perd son terroir. Et voilà, ça serait ce qu'il y a de pire. Et finalement, l'agriculteur indépendant et au service d'une société... Une société co-construite n'aurait été qu'une parenthèse de l'humanité. Nous redeviendrions des cerfs. Un siècle et demi après s'être affranchis, ce serait dommage.
Et donc, toi, Rémi, c'est quelque chose qui t'inquiète aussi, le fait que du foncier non agricole puisse s'installer sur ces terres ?
Il y a toujours des investisseurs prêts à faire de l'argent là où il faut en faire. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des structures en place sur le département et même au niveau national qui permettent de contrôler dans la mesure du possible les agrandissements. Je pense notamment à la SAFER. Donc après, voilà, il y a toujours des décisions qui sont plus ou moins critiquées de la SAFER. J'y siège.
Tu peux peut-être rappeler ce que c'est, du coup ?
La SAFER, c'est d'aménagement foncier et d'établissement rural. Donc, Il gère les terres, c'est une institution qui est, c'est un, composée d'agriculteurs. Dedans, il y a des agriculteurs et toutes les institutions qui tournent autour de l'agricole, donc la chambre d'agriculture, la DDT, le département. Et en fait, quand il y a plusieurs candidats sur une même terre, la SAFER analyse tous les dossiers et en fonction d'un schéma préétabli au niveau régional, en fonction d'un nombre de points que pourraient avoir certains dossiers par rapport à d'autres, eh bien, on catégorise les dossiers, on les priorise et on tranche en fonction de l'un ou de l'autre.
À prix égal. C'est-à-dire que s'il y a un plus offrant, eh bien, il a le droit d'acheter. C'est toute la limite de la SAFER.
Oui, donc c'est la limite. Si non agricole qui est prêt à mettre plus.
Et l'autre limite qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des sociétés qui se montent sur lesquelles c'est des sociétés des GFA ou des sociétés civiles qui sont propriétaires de terres et qui transmettent des parts sociales. Et là-dessus, par contre, la SAFER n'intervient pas. Donc, indirectement, si vous rentrez dans une société civile par le biais d'achat de parts sociales, ben, la SAFER n'est pas au courant que ces terres se vendent. Et un petit agriculteur qui est là à côté, qui aurait eu besoin de ces terres, ben, malheureusement, lui, il n'y aura pas accès, quoi. Parce que là, ben, c'est le propriétaire des parts sociales qui choisit à qui il veut vendre. Et après, voilà, sur le département, ben, on a des secteurs où on est en déprise, où on pâtit à trouver des personnes pour acheter de la terre.
Et ça, c'est une véritable inquiétude pour l'avenir.
C'est une inquiétude, oui et non, parce que ben, il y a 5 ans, il y a des secteurs où c'était totalement déprisé. Et aujourd'hui, ben, on a plein de jeunes agriculteurs qui se sont installés. Après, voilà, on est dans une... Là, d'ici 5 à 7 ans, on a la moitié des agriculteurs français qui vont prendre la retraite. Donc ça représente à peu près 200 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc il va bien falloir trouver quelqu'un pour les remplacer.
Il va bien falloir des repreneurs, du coup. Oui.
Il va bien falloir des repreneurs. Donc moi, personnellement, je pense qu'on trouvera toujours des repreneurs. Après, est-ce qu'on continuera à garder la propriété du foncier de la part de l'agriculteur, je le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens avec le GFA, un très beau moyen de reprise de terre. Je pense que tout un chacun aujourd'hui, habitant d'une ville ou habitant d'un village, on a tous un livret A ou quelque chose qui ne nous rapporte pas beaucoup à la banque. Et je pense que cet argent-là, on pourrait, en son âme et conscience, investir une partie de son argent-là pour acheter des terres qu'un jeune ne peut pas acheter. Ça reste un GFA communal ou intercommunal. Et les gens investissent, ils disent, moi j'ai de l'argent, j'en ai pas besoin, je le place là-dedans, ça me rapporte pas guère plus qu'un livret A ou un poil plus, et j'aide cet agriculteur qui a envie de s'installer, qui n'a pas les moyens. Je pense que techniquement c'est possible, après je pense que humainement on n'est pas encore prêt.
Et toi Loïc, tu souhaites peut-être intervenir donc sur cet avenir de l'agriculture ?
Bon, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vraiment, les problèmes ont été posés. Après, je vais me mettre au niveau local, ce que je connais un petit peu dans la vallée, avec quand même beaucoup de jeunes agriculteurs qui s'installent. C'est très dynamique, donc c'est quand même, ça donne vraiment espoir. Après, le problème, c'est quand on est en périurbain, avec des prix du foncier qui sont importants, des locations qui sont difficiles à faire, parce qu'on pense qu'un jour ça va être constructible, donc on ne veut pas le louer. La grosse difficulté pour moi, c'est ça. C'est un peu quand on est proche des villes ou même dans un endroit résidentiel, d'arriver à laisser une place pour la résidence et en même temps que pour l'agriculteur. C'est notre problème dans notre région.
Je vais maintenant vous proposer donc, qu'on passe aux questions du public avant de finir cette table ronde. Si certains ont des questions ou souhaitent apporter une réponse ou un témoignage aussi sur ces questions de la transmission agricole, de l'agriculture. Oui, je vous passe le micro du coup.
C'était pour Loïc par rapport à ces arbres fruitiers, quand il a dit qu'il avait des problèmes avec le voisinage, ça allait jusqu'où ?
C'est pas moi personnellement qui ai des problèmes avec le voisinage.
Mais, c'est les voisins avec vous.
Dans la vallée, il y a un moment, quand il y a des traitements qui sont faits, des gens qui ne comprennent pas, ou d'un côté, ceux qui traitent, de l'autre côté, les riverains, qui, il peut y avoir des disputes. Il y a des gens qui se sont fait, voilà, qui se sont engueulés, il y a eu des pétitions, il y a eu... il y a un collectif des coquelicots qui peut monter voilà, pour un peu mutualiser tout ça. Et en même temps, voilà, moi je suis allé voir la PABA pour un peu monter des formations vers le bio. On a une quinzaine d'agriculteurs à être rentrés dans ces formations. Pour, on a d'ailleurs obtenu un projet défi qui consiste à diminuer de 50% en 5 ans les produits phytosanitaires utilisés sur les arbres. Donc, c'est pour essayer de réduire et que tout le monde puisse l'entendre. Mais il y a vraiment des tensions.
Merci. Et donc, s'il y a d'autres questions, oui, par ici.
Bonjour Loïc. Tu me reconnais? Ah, mais il ne nous voit pas, Loïc.
Non.
C'est Claudette.
D'accord, bonjour.
Bon, bonjour. Alors, tu nous parles d'un sujet sensible, évidemment, le problème des habitants qui ont construit dans les villages ou au périurbain. Moi, je suis concernée, je suis entourée de vergers. J'ai vécu toute ma jeunesse et je connais ça. Donc, les vergers, ça fait partie de ma vie. Alors, moi, je pense, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de pédagogie entre ceux qui sont concernés par le traitement de leurs arbres et les voisins, parce qu'il faut que chacun s'écoute. Je pense que le risque, c'est de se retrouver dans un climat où il y a une radicalité et que les gens ne s'écoutent pas, ne se rencontrent pas. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des terrains d'entente? Il a été question dans certaines émissions du problème qui se posait par rapport aux vignobles. Que là, c'est grave parce que les vignes qui se trouvent à proximité des écoles, dans les villages, est-ce qu'ils ont trouvé des solutions au niveau de la viticulture? Est-ce qu'au niveau de l'arboriculture, on ne peut pas? Est-ce que la loi, elle ne protège pas les uns et les autres? Parce que ça me paraît très dangereux de laisser un arboriculteur et un habitant à proximité du verger, régler entre le problème.
Je peux te répondre si tu veux. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il y a des dialogues, des rencontres. La Chambre d'agriculture nous aide à ça. Maintenant, il y a des hommes qui ont été déterminés par les coquelicots par rapport aux riverains. Et les agriculteurs qui ont des arbres dans ces zones-là envoient des SMS, par exemple, pour avertir le jour où ils vont traiter, pour que les personnes ne soient pas dans leur jardin ou n'aient pas leur lège à proximité. Mais en 2 ou 3 ans, on a fait quand même pas mal de travail et ça s'améliore bien. En parallèle avec le parc régional, on a candidaté pour avoir une étude par rapport à une vallée verte dans la vallée et essayer de monter un projet là-dessus. Alors, on essaie de travailler un petit peu dans tous les sens, avec tout le monde.
On va peut-être prendre donc une ou deux dernières questions avant de finir cette table ronde au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. S'il y a d'autres questions? Non? Oui, donc une question par ici.
Alors, qu'est-ce qui est entendu, en fait, par vallée verte?
Ce sera à nous à le construire.
C'est-à-dire
un petit peu tous les acteurs du territoire.
C'est donc quelque chose qui va se co-construire?
Pour le moment, le parc régional a répondu à un appel à projet pour avoir un financement, pour y réfléchir. C'est le tout début.
Peut-être une dernière réaction, si vous reste quelque chose à dire sur cette question de transmission, avant qu'on finisse cette table ronde.
Moi, je voudrais dire juste que je partage ce qu'a dit Rémi tout à l'heure sur la solution locale pour le portage des installations agricoles demain et pour la transmission, avec effectivement un projet territorial derrière, c'est-à-dire pas juste de l'épargne populaire et puis les gens en font ce qu'ils veulent, c'est avec une construction d'un projet territorial. Et puis ce qu'on a aussi comme quand même grand danger, c'est la concurrence du non agricole avec la production d'énergie. Alors on est pour l'instant protégé sur le territoire du parc des Grands Causses et en Aveyron encore. Voilà, au niveau photovoltaïque au sol, au niveau voilà, c'est quand même la pression est à nos portes. Avec des enjeux qui dépassent largement nos petites problématiques qui sont quand même essentielles, quoi.
Rémi, un dernier mot pour conclure ?
Non, oui, je suis d'accord avec Laurent. On a la chance quand même sur notre département d'avoir une doctrine départementale qui interdit le photovoltaïque au sol hors zone délaissée de carrière ou délaissée d'autoroute. Et donc ça, c'est une position forte que tient la profession agricole. Et on essayera tant qu'on pourra de ne pas lâcher là-dessus parce que demain... Il y a 100% des agriculteurs qui financièrement s'en sortiront mais mille fois mieux avec une ferme de panneaux photovoltaïques qu'à se lever le matin pour aller traire des brebis et cultiver de l'herbe pendant la sécheresse, quoi. Enfin, et ça, c'est, je pense qu'on a quand même cette cohésion-là au niveau du monde agricole aveyronnais qui est encore attaché à produire de la nourriture pour nos concitoyens. Et je pense que cet enjeu-là sur le renouvellement des générations pourra peser parce que si demain on autorise de la concurrence comme ça, c'est la fin du monde agricole parce que financièrement, il n'y a pas photo. c'est de 1 à 1000 le rendement. Donc on n'aura pas. Tout un chacun, si on vous propose de gagner 1000 fois plus sans rien faire, tous autour de la table, si on enlève tout l'aspect social et environnemental, on ne se posera pas la question. Après, voilà, c'est comment continuer à pouvoir vivre de notre métier, continuer à être malheureusement, je dirais, aidé par nos politiques agricoles communes, parce que si malheureusement on nous enlève ça demain, du jour au lendemain, on va tous crier famine. Et je pense aussi une prise de conscience de la part de nos concitoyens que nos agriculteurs sur notre territoire aveyronnais sont quand même là pour entretenir un savoir-faire et aussi un paysage qui nous est cher, quoi.
Eh ben, merci Rémi. Peut-être Loïc, un petit mot pour la fin ?
Je trouve que voilà, on est un territoire de dynamique, c'est très intéressant, on n'a pas trop de problèmes de succession dans notre coin, c'est vraiment chouette. Par contre, il y a quand même encore de la place pour de nouveaux agriculteurs, peut-être en petite production. Sur l'Aveyron, il manque beaucoup de fruits, peut-être que dans la vallée, il y a encore quelques terrains qu'on pourrait exploiter et pouvoir manger des fruits locaux. Ce serait quand même intéressant d'avoir des petites exploitations qui puissent faire vivre leur du monde et avoir plus de paysans dans le coin.
Eh ben, merci à tous les trois. On était donc avec Rémi Agrigné de la ferme de Vérac à Aguessac, qui est également secrétaire départemental du syndicat des jeunes agriculteurs d'Aveyron. Merci à toi.
Merci à vous.
On était également avec Laurent Reversa, paysan sur le Larzac et membre du conseil de gérance de la Société civile des terres du Larzac. Merci également.
Merci à vous.
Et Loïc Almeras, qui était avec nous en visio de la ferme de la Tindelle à la Cresse. Merci pour ta disponibilité aussi.
Merci à vous. Bonne soirée.
Et bien merci. Merci également au public. Et maintenant, place au repas préparé par les bénévoles de Radio Larzac qu'on remercie chaleureusement. Avec donc au menu un velouté de courges des jardins, un risotto automnal et forestier, ainsi qu'une salade de fruits. Et à 20h30, vous pourrez bien sûr assister au spectacle Éco-Ruraux par la compagnie Les Antichés, ici même au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Quant à nous, on vous dit à très bientôt. Nous serons de retour au théâtre le 15 janvier avant le spectacle Les Secrets d'un gainage efficace, afin de parler des injonctions et du rapport au corps des femmes. Et d'ici là, la radio vous donne rendez-vous mardi 16 et mercredi 17 novembre, salle René Rieu à Millau, pour des tables rondes sur la lutte contre les discriminations en milieu rural. Ce sera de 17h à 20h le mardi 16 et le mercredi 17 novembre avec la participation des associations du territoire et le soutien de la DILCRA. Donc bonne soirée à toutes et à tous, bon appétit et bon spectacle devant Éco-Ruraux.